qui travaille dans une école chrétienne. D'accord.
Oui. Est-ce que catho, tu penses?
Voilà, est-ce que catholique c'est chrétien? Ok, vous pouvez parler de votre foi comme vous voulez.
Oui, oui.
Oui, ok. Non, mais alors ceux qui n'ont vraiment pas la possibilité de parler clairement de Dieu, c'est tout le reste en gros, c'est ça? Donc la grosse, grosse, grosse majorité. Ok. Plutôt là, plutôt primaire ou plutôt secondaire là? Donc il y a beaucoup de secondaires. Ok, d'accord. Alors, je pose la question parce qu'on va voir après, on va essayer de voir un petit peu des applications pédagogiques pour que je m'adapte. Donc ce matin on a parlé de l'enfant, une vision biblique de l'enfant. Cet après-midi on va parler d'une vision biblique de l'enseignant. Alors première chose, l'enseignant doit être père et maître. Alors c'est pas sexiste, hein. Il peut être aussi mère et maître et maîtresse, ça marche aussi. Mais si vous faites attention au terme que j'ai marqué, il est père avant d'être maître. Ce matin, je vous avais parlé d'une distinction à faire entre éducation et instruction. Pour moi, c'est important parce que je pense que s'il n'est pas père, s'il ne fait pas de l'éducation avant de faire de l'instruction, il ne pourra pas non plus être maître. Donc l'enseignant doit avant tout voir ses élèves comme des enfants. Pas forcément ses enfants, parce qu'après on peut faire des déplacements, voilà. Mais avant tout comme des enfants, d'accord? Alors il est aussi maire, hein, même le maître est maire, parce que comme disait Luc Bussière, éduquer, c'est enfanter à Jésus, d'accord? Donc vous voyez que c'est vraiment l'éducation qui est, l'instruction qui est au service, pour moi, de l'éducation. Un deuxième point important pour moi, c'est le regard de l'enseignant sur les enfants que Dieu lui a confiés. J'avais aussi une de mes enseignantes à l'ISP, Nicole Sissia, qui me disait, quand je rentre dans ma classe, je me dis, ce ne sont pas mes élèves, ce sont les enfants que Dieu m'a confiés. Et du coup, je me dis, quel est le regard sur les enfants qui sont en face de moi? Sur celui qui est pénible, sur celui qui arrive toujours en retard, voilà. Comment est-ce que je les regarde? Pour moi, ça c'est vraiment important, parce que si on a aussi une vision un petit peu biblique, si on pense que dans chaque enfant, il y a une promesse que Dieu a mise dedans, on peut les regarder en se disant deux choses. Alors lui, il est pénible, il va rien réussir. Oh non, lui, il est pas absent, ma journée va être gâchée. Ou alors on peut se dire, ah, en face de moi, j'ai peut-être ici un futur théologien, une future missionnaire, un futur pasteur, ou quelqu'un qui sera peut-être pas dans un ministère, mais qui sera un chrétien et qui va emmener une centaine de personnes à Christ. Vous voyez, peut-être que j'ai un futur Jean Calvin qui est assis ici en face de moi, et me dire aussi, parce qu'il faut être conscient de ça, qu'en face de moi, eh bien, il y a des enfants qui n'accepteront jamais le Christ. Et qui finiront dans un endroit que la Bible nous décrit comme pas sympa du tout. J'ai tout ça dans ma salle de classe. Donc quel regard est-ce que je pose sur les enfants qui sont en face de moi, sur ceux que Dieu m'a confiés? Ce qui veut dire que notre rôle d'enseignant, c'est aussi un ministère. C'est une vocation à part entière. Tout comme l'enfant, eh ben l'enseignant est pêcheur et fini. L'enseignant ne sait pas tout. Alors ça, les enfants, ils aiment beaucoup. Moi, dans ma salle de classe, quand je me trompe, et je le cache pas. Ah, je me suis trompé. L'autre jour, j'ai écrit les pommes rouges, rouges NT. Alors tout le monde a fait l'exercice, on est en train de faire de la grammaire, tout se passait très bien, puis au bout d'un moment j'ai réalisé quand même ce que je venais d'écrire. Il n'y a personne qui me dit que là j'ai écrit n'importe quoi. Hein, donc ça ils aiment bien aussi, hein, quand on pose des questions, bah, j'ai pas honte de dire, bah, écoute, j'en sais rien, bah, on prend un dictionnaire et puis on regarde. Donc ça ils aiment beaucoup aussi, c'est aussi nous se remettre à notre place. On ne sait pas tout. Et on est aussi pêcheurs, hein, on parle de gestion des émotions, on est des saints en cours de sanctification. Y a des fois la colère, oui, elle est encore là, hein, comment je la maîtrise, voilà. Donc ça, il faut apprendre aussi à se connaître un petit peu. Apprendre à se connaître un petit peu, c'est important, puisqu'en tant qu'enseignant, on est aussi là pour être des exemples, des modèles. Pas parfaits, parce qu'on ne le sera jamais, sans qu'on soit glorifié. On sera peut-être plus enseignant dans ce cas-là. Mais en attendant, en tout cas, on est appelé à être des modèles. Et il y a une citation, hein, qui est assez connue, mais que moi j'aime beaucoup, hein. ce que vous êtes crie plus fort que ce que vous dites. Et j'en ai une autre qui va dans le même sens. Attention à la manière dont vous vivez, parce que vous pourriez bien être la seule Bible que des personnes, mais que des enfants ne liront jamais. Donc ça, c'est très important. Hein, vous avez vu ça, hein? On parlait aussi ce matin des enfants cœur de pierre, cœur de chair. Ça, ça implique qu'il y a un petit peu des deux dans notre classe aussi. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir faire de la discipline. D'accord? Et pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment important et primordial dans la discipline, et c'est ce que j'essaye moi de mettre en place dès le début de l'année. C'est vraiment le fait de créer une relation avec les élèves. Une vraie relation. Parce que je pense qu'un élève qui vous respecte, qui vous apprécie, voire même qui vous aime, sera d'autant plus enclin à écouter ce que vous dites qu'un élève qui ne peut pas vous blairer. Et inversement, si vous, vous n'aimez pas l'élève, de toute façon, il va le sentir, ce sera impossible de faire quelque chose avec. Donc, le fait d'avoir une bonne relation avec ses élèves, hein, ça évitera pas d'avoir des clashs et de faire de la discipline. Mais normalement, ça devrait beaucoup mieux se passer. Normalement. Putain, je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. Ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est Martin Luther qui a surtout mis ça en avant. Dans la première épître de Pierre, l'apôtre nous dit que nous sommes tous une nation de rois et de prêtres. Et je rajoute, de prophètes. Parce qu'on annonce aussi la parole de Dieu. Il dit bien, tous. C'est pas réservé aux pasteurs, ni aux théologiens, ni à ceux qui ont des dons particuliers. Chaque chrétien, du moment où il est justifié, reçoit ce sacerdoce universel, devient roi, prêtre et prophète. Ça, c'est important pour la suite. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à nous engager activement. On ne peut pas dire, bon non, moi je ne suis pas évangéliste, alors j'annonce pas l'évangile. Non, c'est faux. Annoncer l'évangile à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être évangéliste. Du tout. Nous sommes tous évangélistes. Nous sommes tous théologiens. Ce sacerdoce, il se fait en parole et en acte. Ce matin, on a parlé un petit peu du concept de vision biblique du monde. Une vision biblique, ça englobe toute chose. Votre vision biblique, c'est ce qu'il y a vraiment au plus profond de vous. Ce que vous croyez, forcément, ça va se répercuter. Alors oui, dans votre théologie, on est d'accord. Mais en fait, ça va se répercuter aussi en économie. Si vous êtes chrétien, vous allez probablement gérer votre argent d'une manière différente d'un non-chrétien. Ça va se répercuter sur votre écologie, sur vos idées politiques, sur vos idées philosophiques, sur la manière dont vous appréhendez l'art, l'éducation, etc., etc. D'accord? C'est une vision globale des choses. Mais ce n'est pas une vision qui se fait juste en pensée, ou qui se fait juste avec des paroles, mais c'est aussi quelque chose qui se fait avec des actes. Hein? On parlait ce matin d'être et de faire, ben c'est exactement ça. Hein. Abraham Kuyper, qui était premier ministre au 19e siècle aux Pays-Bas, disait « Il n'y a pas un centimètre carré de la création qui n'appartienne pas à Christ. » Quand on est conscient de ça, on commence à avoir une vision biblique du monde. D'accord? Donc tout ce que vous allez pouvoir dire, faire avec les enfants, doit refléter cette vision du monde qui est en vous. Hein? Puisqu'on fait toujours ce que l'on croit. Ça doit se manifester. Donc là, par exemple, pour ceux qui sont dans des établissements publics, c'est aussi quelque chose là à réfléchir. Vous pouvez en fait parler de Dieu sans dire le mot Dieu, ou sans sortir un verset biblique. Mais en étant qui vous êtes, en Christ. Si ça peut déculpabiliser. Moi, je trouve que c'est très déculpabilisant, c'est pour ça. Le sacerdoce universel, ça veut dire aussi que vous êtes tous, tout le temps, disciples et témoins. Tout le temps. Vous êtes disciples et témoins avant d'être prof. Avant d'être enseignant. Vous êtes disciples et témoins du Christ. Ça aussi, c'est important de remettre les choses dans le bon ordre. Et nous sommes tous missionnaires là où nous sommes, avec les dons que Dieu nous a donnés. On peut partir en mission en Afrique. Ça fait 3 ans que je vais là-bas aider des amis qui ont ouvert une école au Congo. Mais en réalité, vous êtes déjà missionnaire là où Dieu vous a placé, avec les dons que vous avez. Vous n'avez pas cherché d'autres dons que ceux que vous avez. Ceux que vous avez, c'est ceux qu'il vous fallait. Et Dieu vous a placé là parce que c'est ici qu'il fallait que vous les utilisiez. Donc vous êtes déjà missionnaire là où vous êtes. Ça m'amène à ce qu'on appelle la mission intégrale. Finalement, le sacerdoce universel, c'est pas juste ce que nous faisons, mais c'est aussi avant tout ce que nous sommes. Hein, on a parlé ce matin de l'image de Dieu, vous vous rappelez, hein, qui était ontologique et économique, l'être et le faire. Et ben c'est exactement ça. Donc être enseignant chrétien, même dans le public, c'est pas avant tout ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qu'on est. Hein? Par exemple, moi je suis ancien dans mon église, je suis chrétien, disciple du Christ. Et ben quand j'ouvre ma porte de classe le matin, et ben je pose pas ma veste de chrétien, puis allez, maintenant, hop, j'en fais une chemise, je suis enseignant. Christ, il reste dehors. Non, je reste chrétien. Je reste qui je suis en fait. Je ne peux pas changer parce que j'ai franchi un pas de porte. D'ailleurs, souvent on dit un petit peu, je trouve ça un peu limite dans le vocabulaire, des fois on peut dire, oui, j'invite Jésus dans ma, j'invite Dieu dans ma salle de classe. Mais non, on n'invite pas. C'est lui qui nous invite justement dans cette salle de classe. C'est lui ici qui nous précède. Donc nous sommes chrétiens quand on rentre là-dedans, parce que lui, il est déjà là en fait. J'ai pas besoin de l'inviter. C'est lui qui m'invite, me précède en toute chose. Ça veut dire que ma classe, pour moi en tout cas, comme je la vois, c'est une classe communauté. C'est pas juste un enseignant, des élèves, mais nous sommes une communauté. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ma classe est une classe église. Il n'y a pas d'un côté l'école et de l'autre côté l'église. Là où un ou deux sont réunis en mon nom, hein, là est le Christ. Quand nous sommes ensemble dans une salle de classe, c'est comme une église. L'église avec un grand E. On appelle l'église invisible. Enfin, ça, il me semble que c'est quand même très important. Alors, ce sacerdoce universel. En théologie, on parle des offices christiques. Vous savez, on dit souvent que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, que Christ était roi, prêtre et prophète. Hein, ça, c'était les trois grands offices qu'il y a dans la Bible. Laetitia, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous lire ça? Le premier carré. Ah, ça fait petit.
Christ est roi terrestre, spirituel, et il vient pour juger.
Voilà, alors là je ne vais pas vous faire une longue démonstration, mais Christ est roi terrestre, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est roi légitimement, hein, tant que descendant de David, par Joseph, et il est roi spirituel, puisque quand il est avec Ponce Pilate, hein, qui lui pose la question, finalement, est-ce que tu es bien roi? Oui, mais mon royaume, pas de ce monde. Et il vient aussi pour juger. Donc les rois, c'est ceux qui, dans la Bible, ont remplacé après les juges, et c'est eux qui ont ensuite exercé cette fonction. Ça allait ensemble. D'accord? Christ nous dit bien, dans la parole de Dieu, qu'il revient aussi pour juger. On l'attend tous pour le grand jour du jugement. D'accord? Et d'ailleurs, nous, on a même été jugés quand il est mort sur la croix, quand nous, on lui a donné notre vie. Nous avons déjà reçu le jugement. Il y a le suivant.
Christ est le royaume et celui qui est condamné.
Voilà. Mais Christ n'est pas seulement que roi, il est plus. Christ est lui-même le royaume. Là où est Christ, là est le royaume de Dieu. Ne le cherchez pas bien loin, disait Christ quand il parle aux pharisiens. Il est là, au milieu de vous, parce que je suis ici. Christ est le royaume. Mais, paradoxalement, aussi en tant que juge, c'est lui qui a subi la grande condamnation. C'est lui qui a subi le grand jugement.
Domine sur toute chose en régnant et jugeant.
Voilà. Et vous vous rappelez, ce matin, je vous ai parlé de cette image de Dieu qui était en nous, qui était liée aussi au mandat culturel. Dominer, remplir, soumettre. En tant que roi, Christ domine sur toute chose en régnant et jugeant pour l'éternité. Christ accomplit aussi le mandat. Et vous voyez, hein, les deux premiers carrés concernent entre guillemets son être. Le dernier concerne son faire. Hein? Il y a ici encore les deux dimensions. Ensuite, Christ est prêtre aussi.
Christ est le grand prêtre qui prie pour ses disciples.
Voilà. Si vous lisez Jean 17, par exemple, hein, qu'on appelle la prière sacerdotale, Vous voyez que Christ prie, comme le faisaient les rabbins à l'époque, pour ses disciples. Et puis, abondamment, l'épître aux Hébreux nous rappelle que Christ est notre grand prêtre, celui qu'il nous fallait.
Christ est le temple et le sacrifice.
Mais Jean, dans son évangile, chapitre 2, nous dit que Christ est plus que grand prêtre, parce qu'il est lui-même le temple. Vous vous rappelez quand Christ disait aux pharisiens « Je vais détruire ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Puis tout rigole, nous attends, on a mis 40 ans pour reconstruire ça. Oui, mais Jean nous rajoute, oui, mais Christ parlait de son corps. Il est le temple. Et il est lui-même le sacrifice, l'agneau parfait, nous dit l'Épître aux Hébreux, encore une fois.
Christ soumet la mort par sa propre mort.
Eh oui. En mourant sur la croix, Christ n'a pas perdu. Christ a gagné. En mourant, la mort est morte. Christ a tué la mort en mourant. Ça, c'est fort, hein. C'était John Owen, un grand puritain hein, du XVIIe siècle, hein, qui avait écrit un livre, La mort de la mort par sa mort. Je vous encourage à lire, hein, c'est pas très grand, mais c'est très puissant. Et ben, c'est exactement ça. Donc, Christ soumet, domine, il soumet. Et le dernier, s'il te plaît, Christ est prophète.
Christ est le prophète qui annonce la parole de Dieu aujourd'hui et voit des prophéties se réaliser et annonce des prophéties eschatologiques.
Voilà. Christ est le grand prophète parce qu'il annonce la parole de Dieu aujourd'hui. Il a vu ses prophéties, il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il en a annoncé dans le Nouveau Testament qui se sont accomplies à son époque et il en a annoncé d'autres qui restent encore à accomplir. Fameuse promesse que nous, on attend en tant que chrétiens, notre espérance.
Christ est le Verbe de Dieu et celui qui accomplit les prophéties.
Voilà. Mais c'est encore plus fort parce que Christ n'annonce pas seulement l'Évangile. Il est l'Évangile. Il est la parole, le Verbe de Dieu. Nous disons dans son introduction.
Il remplit le monde de sa parole en étendant son royaume et son Église.
Voilà. Remplir le monde de la gloire de Dieu, le remplir d'enfants de Dieu, et étendre partout le royaume de Dieu et son Église. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est pas un cours de théologie systématique. Maintenant, on a parlé de l'analogie créateur-créature. D'accord? Si Christ est tout ça, eh bien, quelque part, nous aussi, en tant que chrétiens, si nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous aussi, nous sommes rois, prêtres, et prophète. Alors, c'est des mots qui nous parlent forcément pas trop, hein. Nous, dans notre culture aujourd'hui du 21e siècle, on n'a pas trop de rois ou de prophètes. Alors, j'ai contextualisé ça avec 3 autres termes qui nous parlent à nous peut-être plus. Théologien, pasteur et missionnaire. Ça, c'est le sacerdoce universel. Chaque chrétien, tous, nous sommes simultanément théologien, pasteur et missionnaire. Tous. Alors, le théologien, c'est celui, entre guillemets, qui accomplit le mandat culturel. Pourquoi j'ai marqué le théologien en face de l'office de roi? Le roi, c'est un petit peu celui qui dirige. C'est celui qui fait un peu l'autorité. On a vu, c'est un petit peu celui qui juge. Mais sans aucune connaissance de la parole de Dieu, sans aucune réflexion sur la parole de Dieu, comment faire tout ça? C'est pas possible. Ou alors, ça sera fait d'une manière tordue. Après, les 12 autres correspondances sont peut-être plus faciles à faire. Donc le théologien, c'est celui qui accomplit ce fameux mandat culturel. Le prêtre, c'est celui qui accomplit les deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça, ce sont les 2 grands commandements. Et le prophète, le missionnaire, bah, c'est celui qui accomplit le mandat missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trouve encore ici la Trinité. Alors, en tant que roi, en tant que théologien, dans notre salle de classe, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a le droit d'exercer la discipline, la justice. Mais on a le droit aussi d'exercer la grâce. Un exemple tout bête, hein, moi, dans ma salle de classe, quand mes élèves travaillent bien, je leur mets une petite étoile, puis au bout de 3 étoiles, ils ont un bon point. Inversement, quand ils font quelque chose de pas bien, qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont un trait rouge, et puis au bout de 3 traits rouges, et ben ils ont un avertissement dans le cahier à faire signer par les parents. Mais chaque semaine, ça s'efface. Chaque semaine, il y a la grâce qui arrive le week-end. Chaque semaine, on recommence. On a beau y avoir deux traits rouges la semaine d'avant, et bien le lundi matin, on repart à zéro. Et il m'est même arrivé des fois de mettre un trait rouge, et puis l'enfant vient dans la journée et essaye un petit peu de m'expliquer pourquoi il a dit ça ou il a fait ça. Je l'écoute, et puis ça m'est arrivé du coup de revenir, de dire ok. Et puis de laisser une chance. J'efface le trait rouge, je dis ok, on repart, on voit bien la journée. Bon, des fois, il est retombé pas longtemps après derrière. Mais... on peut aussi exercer la grâce. Alors, c'est important parce que quand dans notre classe, on essaye d'avoir un petit peu d'autorité. Alors, attention, autorité, ça ne veut pas dire être d'autoritarisme, hein, mais on a le droit d'avoir l'autorité. Quand on montre aussi aux élèves qu'on est là pour, et qu'on les écoute, et qu'on est prêt aussi à revenir des fois un peu en arrière, je pense que quelque part aussi, ça les touche. Parce qu'ils voient qu'on n'est pas juste des dragons qui sont là juste pour faire de la discipline, parce qu'on fait de la discipline. Voilà, quand il y a de la discipline, c'est parce que ça doit être fait. Et moi, généralement, les miens, ils savent que quand je commence de lever la voix et puis de froncer les sourcils, c'est qu'ils sont vraiment allés loin. Mais en même temps, ils savent très bien qu'ils peuvent venir me voir et puis qu'on peut discuter et que ça, on reste pas sur une note négative. C'est aussi le service. Un roi, normalement, c'est pas celui qui domine et écrase les autres, mais c'est dominer en servant. C'est ce qu'a fait le Christ. Hein. Donc on est là aussi pour servir nos élèves. Des fois des choses bêtes, hein, un stylo qui fait tomber, ou un truc qui traîne par terre, et bien, si c'est nous qui le ramassons, qui lui donnons, des fois aussi ça les marque, des choses bêtes comme ça. Ça, ils se disent, voilà, c'est à nous de montrer l'exemple. Hein, si moi je sers, peut-être qu'ils seront amenés à servir. Et il y a un gars, pas du tout chrétien, que vous connaissez tous, qui s'appelle Pythagore, et il a dit un truc, une phrase que je trouve très belle, puis qui peut... Je ne sais pas trop dans quel contexte, hein, mais en tout cas, on peut l'appliquer à la nôtre. Il a dit, un homme n'est jamais aussi grand que quand il est à genoux devant un enfant. Et ça, je pense que pour nous, il y a des grandes implications. En tant que roi, théologien, on peut aussi utiliser la culture populaire. Hein, faut pas avoir peur dans nos salles de classe aussi d'utiliser les choses du monde. On peut essayer de préserver les enfants du monde, mais faut aussi les confronter au bout d'un moment. Hein. Daniel, s'il a été formé à Babylone, c'est parce qu'après, normalement, il devait retourner dans le monde. Hein. Les enfants ne vivent pas dans une bulle, même dans une école chrétienne. Donc on peut utiliser les choses de la culture populaire pour leur montrer ce qui est bien, aussi ce qui n'est pas bien. Leur montrer les contradictions. Là, c'est un peu leur apprendre aussi à avoir un esprit critique par rapport au monde. Utiliser aussi la révélation générale, c'est-à-dire l'extérieur. Donc on a deux livres en tant que chrétien, on a la Bible, et puis on a la création. Alors ça, par exemple, pour des enseignants du public, vous n'avez pas le droit de parler de la Bible. Par contre, vous pouvez leur montrer tout ce qui est dehors. Et ça, les amener à s'extasier devant la création de Dieu, c'est déjà ouvrir une porte. Hein, vous vous rappelez ce que Johan a lu ce matin, hein, en Romains 1, versets 18 à 21. Dieu aussi se reflète dans sa création. Alors après, j'ai marqué des termes un peu techniques. L'impossibilité du contraire et des arguments apologétiques. En fait, ce qui est intéressant aussi, alors peut-être avec les plus grands, c'est d'utiliser justement la création comme argument. Le but étant pas forcément de leur prouver que Dieu existe, mais de leur prouver que c'est impossible que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'impossibilité du contraire. D'accord ? Et de pouvoir utiliser tous les arguments scientifiques, archéologiques, historiques, même philosophiques, qu'on a, qui se trouvent dans la création, pour essayer de leur parler de Dieu. Et tout ça dans le but de les amener à se réconcilier avec la création. Pierre, ce matin, nous parlait des quatre réconciliations, et bien elles sont là. Alors bien sûr, la réconciliation principale, c'est la réconciliation avec Dieu. La deuxième, c'est la réconciliation avec la création. Le deuxième point, en tant que pasteur, dans votre salle de classe, vous pouvez prier pour les enfants. Alors vous ne pouvez peut-être pas prier avec eux, mais peut-être que vous pouvez déjà commencer par prier pour eux, pour chacun des enfants, prier pour leurs parents, pour l'équipe pédagogique. Vous pouvez créer une relation de confiance avec l'enfant, avoir une communication bienveillante, hein, donc là, il va falloir apprendre à gérer ses émotions, parce que des fois, c'est pas facile. Avoir un amour inconditionnel, ça aussi, c'est pas facile, hein. Dur, hein? Dur. Travailler sur le caractère, alors travailler sur le leur, mais aussi travailler sur le nôtre. Hein? Ça, c'est la sanctification. Hein? Parce qu'un enfant, On ne lui apporte pas que des connaissances académiques, mais on lui apporte aussi, nous, en tant qu'enseignants, des connaissances de vie. Et notre humilité, notre sagesse, notre maturité, tout ça, c'est aussi des choses. Donc ça, par exemple, dans le public, vous pouvez leur apporter. Votre humilité, votre sagesse, vos connaissances. Vous pouvez ça leur faire. Votre sainteté aussi. Il y a le pasteur Oberlin, qui était aussi donc, enseignant. Hein. J'aime beaucoup cette phrase, il disait « il faut saisir la balle au rebond ». Dans la journée, on a 100 000 occasions d'avoir des enfants qui se tapent dessus, qui se volent un goûter, qui se crachent à la figure, qui pleurent, qui arrivent le matin parce que les parents sont disputés, donc on voit qu'il a une tête, voilà. Et bien tout ça, ce sont toutes des occasions, des balles à prendre au rebond, pour justement avoir une relation avec l'enfant, et puis pouvoir, alors soit directement pouvoir lui parler de Dieu, soit quand vous ne pouvez pas, peut-être par exemple dans le public, avoir des mots de réconfort. Vous pouvez apporter des principes bibliques sans utiliser des termes bibliques. Vous voyez? Donc accompagner voilà, les blessés de la vie, donc apprendre la réconciliation avec soi-même, hein, et amener à l'émerveillement. Ce que je vous disais par exemple avec la création, pouvoir amener les enfants à s'émerveiller par exemple de la grandeur de la création, de l'immensité de l'espace, des choses tellement petites. Science. C'est aussi extraordinaire, hein, aussi bien le macro que le micro. Hein. Amener à s'émerveiller. Et puis à louer Dieu, etc. Si on peut. Dans le troisième aspect, missionnaire, vous pouvez utiliser dans votre classe les différentes ethnies qui sont là. Vous avez sûrement des blancs, des noirs, des chocolats au lait, des asiatiques. Vous avez même dans les blancs, vous avez peut-être des anglais, des qui viennent du pays de l'Est, je ne sais quoi.
Enfin, rouges.
Des rouges. Voilà. Il y a une grande mixité quand même dans notre salle de classe. Hein? Et ben ça, c'est chouette de pouvoir en parler. Bah, tiens, il y a un tel, il vient de tel pays. Tiens, tu pourrais nous faire un exposé sur ton pays, nous parler de quand c'est la semaine du goût. Tiens, peut-être qu'on pourrait goûter une spécialité de son pays. Ou... Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les enfants. Donc, utiliser les différences ethniques, utiliser les différences sociales, les différences culturelles. Hein? Donc ça, c'est la réconciliation avec les autres. D'accord? Ce que je parlais ce matin, faire découvrir ses dons et sa vocation aux enfants, créer une classe communauté, et puis l'intégration biblique. Alors, ce qu'on appelle l'intégration biblique, c'est essayer de parler de Dieu aux enfants pendant les matières scolaires. Alors, le mot en lui-même, intégration biblique, il peut être un peu moyen. Alors, on n'a pas vraiment d'autres mots pour le moment, mais parce que ça peut dire que j'intègre Dieu dans mon cours. Mais non, mon cours découle de Dieu. Dieu, ce n'est pas un post-it sur mon cours de français. Le français découle de Dieu. D'accord? Mais essayez de pouvoir parler de Dieu. Alors, une définition qu'on peut donner, c'est un tissage quotidien de vérité sur vérité et de principe sur la grande toile du méta-récit biblique. Et ça, pour le public, ça peut peut-être... C'était compliqué ce que je viens de dire? Voilà. Alors, je reformule. Alors, le méta-récit biblique, c'est la Bible, en fait. Hein. Ne compliquez pas. Ce qu'on appelle l'intégration biblique, c'est pas juste dire, allez, je fais un cours sur les multiplications. Vous savez, les enfants, Jésus a multiplié les pains. Voilà. Donc ça, c'est un peu école du dimanche, j'ai envie de dire. Désolé s'il y a certains qui font de l'école du dimanche. Ce que je veux dire, c'est que derrière la multiplication, derrière les mathématiques, il y a Dieu. D'accord? Il y a des choses plus grandes que simplement Jésus qui a multiplié des pains. D'ailleurs, dans son contexte, ce texte ne parle pas forcément de la multiplication des pains. Il y a un truc plus grand qui est derrière ça. D'accord? Dans la Bible, il y a des principes qui nous sont donnés. Il y a des vérités qui nous sont données. D'ailleurs, vous le faites. Hein, quand vous lisez le Lévitique, j'espère que vous n'appliquez pas le Lévitique au pied de la lettre. Non. Vous en retirez des principes. D'accord? Eh bien, en fait, c'est la même chose. Vous pouvez essayer de parler de Dieu dans un cours de français et de maths en leur parlant de vérité biblique, de principes bibliques. Et ça, pour un enseignant du public, par exemple, ça peut être une grande bénédiction, parce que là, vous allez pouvoir parler de Dieu sans forcément mentionner Dieu ou la Bible, mais avec, en annonçant un principe biblique. L'amour, la vérité, la sagesse, la sainteté, je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de dire, oui, alors dans tel chapitre, dans tel verset, Jésus nous parle de la sainteté. Non, vous pouvez très bien parler de dire oui, voilà, quand on fait ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Vous voyez un peu ce que je veux en venir? Ça demande un peu de réflexion, mais. Voilà. Et en fait, pour aller plus loin, parce que là, on pourrait dire que je divise un petit peu tout entre mes mandats, mes commandements, etc. En fait, Grégory Bill, dont j'ai déjà parlé ce matin, il dit que le mandat missionnaire, en fait, c'est simplement le mandat culturel appliqué à l'ère de la rédemption. D'accord? Donc finalement, ça ne fait qu'un seul mandat. Les deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, sont reliés par une conjonction, ils vont ensemble en fait. On ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. D'accord? Et le fait qu'on aime son prochain, ça reflète déjà le fait qu'on aime Dieu. Finalement, ce n'est pas deux commandements. C'est un seul commandement. D'accord? Et comme on ne peut pas soit s'occuper de la planète, soit aller évangéliser les autres si on ne les aime pas, au final, en fait, il n'y a pas un mandat culturel, deux commandements et un mandat missionnaire. En fait, tout ça, c'est une chose. Et si tout ça, c'est une chose, être roi, prêtre et prophète, en fait, c'est aussi une seule chose. C'est aussi un office. C'est être disciple, tout simplement. C'est être chrétien. Au final, c'est être vous. D'accord? J'ai encore un petit peu de temps?
En théorie, non, mais.
En théorie, non.
Tout dépend, parce qu'il y aura, encore un quart d'heure d'exposé perso dans votre
Ouais,
atelier, dans ton atelier, donc est-ce que
c'est
c'est
ça.
possible de. Ou alors de résumer?
Oui, alors je vais juste terminer sur une chose. Alors, si vous voulez plus de choses sur un petit peu l'intégration biblique et deux, trois autres petites choses, c'est pas pour me faire de la pub, hein, mais j'ai écrit plusieurs articles sur un site qui s'appelle Le Bon Combat, vous connaissez peut-être. Voilà, si vous cherchez, puis vous tapez mon nom, vous verrez, il y a des articles que j'ai écrits du coup qui développent quand même un peu plus long ces notions-là, comme j'ai pas trop le temps. Je voulais juste vous laisser avec une phrase. Dietrich Bonhoeffer, que vous connaissez peut-être, théologien allemand qui est mort dans les camps de concentration, a dit une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué. Il a dit « Cherchez le frère dans le Christ et le Christ dans le frère. » En fait, cette phrase, « Cherchez le frère dans le Christ. » Qu'est-ce que le Christ a dit sur mon frère? Et comme toute la Bible vient de la parole de Dieu, vient du Christ, finalement, qu'est-ce que la Bible m'enseigne sur mon frère? Qu'il est créé comme moi à mon image, qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé, que lui aussi a des dons, que lui aussi est en marche comme moi, qui va être glorifié et vivre l'éternité avec moi, que je dois apprendre à supporter aussi bien ses péchés que ses libertés. D'accord? Et en même temps, dans l'autre sens, chercher le Christ dans le frère. Quand je vois mon frère ou ma sœur, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, dans la manière où il fait son travail, dans la manière où il éduque sa famille, qu'est-ce qui me rappelle le Christ? Ou qu'est-ce qui ne me le rappelle pas? Sur quoi est-ce que je peux prendre modèle chez lui, chez elle? Et sur quoi est-ce que peut-être je pourrais mettre le doigt pour l'aider dans sa sanctification? Vous voyez, ça c'est une phrase très importante. Maintenant, en fait, cette phrase, elle marche avec tout. Remplacer le mot frère par enfant ou élève. Chercher l'enfant, chercher l'élève dans le Christ et le Christ dans l'élève. Qu'est-ce que le Christ a dit sur les enfants? Et dans l'enfant qui est en face de moi, même s'il n'est pas régénéré, hein, parce qu'il y a des marques de la grâce partout, qu'est-ce qui me rappelle le Christ? D'accord? Et je vais même vous donner un conseil encore, parce que je parlais de vision biblique du monde. Maintenant, vous remplacez ce terme par ce que vous voulez. Cherchez la culture dans le Christ et le Christ dans la culture. Cherchez le travail. Cherchez la vérité. Cherchez la mort. Ça nous donne une bonne vision biblique du monde.